C'est notre premier message de l'année. On a eu une réunion mercredi quand même, puis une mercredi d'avant, mais c'était pas comme une prêche le dimanche, puis on en profite justement vu qu'on commence une nouvelle année. Mais je pense que c'est le meilleur temps pour faire le point. On commence une nouvelle année. Il y a encore beaucoup de jours devant nous où on va avoir toutes sortes de choses à traverser, des bonnes comme des moins bonnes. Puis pour bien partir, il faut faire le point pour être sûr qu'on est bien à l'équerre avec le Seigneur. Une nouvelle année, c'est un bon temps pour un nouveau départ. On peut remettre ça. Bon, je vais attendre pour mettre ma vie en règle. Oh, je vais attendre pour régler telle et telle chose avec pardonner à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je vais attendre plus tard. On peut remettre tous nos problèmes. Je vais attendre j'ai un péché, mais je vais attendre pour régler ça, cette affaire-là, puis je vais continuer à le pratiquer. On peut attendre. Mais le Seigneur nous dit de veiller. Le Seigneur nous dit de se préparer. On est dans l'attente de quelque chose qui va arriver soudainement. Ping, on s'en va. Les prêtres s'en vont, les pas prêtres, ils s'en vont pas. Ils restent là. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Puis c'est important de veiller et prier pour garder la connexion, puis être à l'équerre. C'est ça que je dis, être à l'équerre, à l'unisson avec le Seigneur. Il faut prendre conscience qu'on a en réalité n'importe quel temps, n'importe quel moment de notre vie peut être un bon moment pour reprendre un nouveau départ. Moi, j'ai pas attendu au premier de l'an pour accepter Jésus. J'ai accepté Jésus dans le mois de novembre. Puis c'était le 20. C'était même, si t'attends, t'es pas sûr que tu vas être encore disposé ou d'équerre avec le Seigneur. Des fois, il y a plein d'affaires qui nous arrivent, puis on change d'idée, puis on retarde. Mais vu qu'on commence une nouvelle année en tant qu'Église, on prend un nouveau respect, puis là, on repart. Puis là, ça serait un bon moment de penser qu'on commence une nouvelle année, puis il va y avoir beaucoup de choses à faire ensemble avec le Seigneur. Puis il faut être d'équerre, parce qu'une Église peut être encore en train de se réunir, mais pas être connecté. Puis même il y a des églises, tu vois dans l'Apocalypse, que Jésus, il est même plus dans son église, puis il est à la porte, puis il frappe, il aimerait ça rentrer. Puis il dit, si quelqu'un entend, mais au moins je vais aller manger chez eux. Ça veut dire que tu peux être une église, puis être déconnecté avec le Seigneur. Puis il est important qu'on fasse le point pour voir ce qu'on en est rendu. Avez-vous l'impression que vous n'avez pas la victoire dans vos combats? C'est des questions. Puis vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais il faut y penser. Si on s'arrête jamais pour y penser, il faut y penser. Est-ce qu'on est dans la victoire dans tous les domaines de notre vie? Quand il nous dit dans « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté », ça veut dire qu'à quelque part, il y a un niveau qu'on peut atteindre d'être comme notre maître. Avez-vous l'impression que vous ne marchez pas avec le même feu qu'auparavant? Être rempli de la joie du Seigneur, le feu du Seigneur qui est dans vous, le Saint-Esprit vous remplit, puis là, vous avez le goût de conquérir la ville, puis de parler de Jésus à tout le monde, puis de louer le Seigneur de tout votre cœur. Mais ce feu-là, ça nous a animés. Est-ce que ça nous anime encore? Avez-vous l'impression que vous ne marchez pas de progrès en progrès? Parce que ça nous le dit dans la Bible qu'on marche toujours de progrès en progrès. Mais ça peut arriver qu'il y a comme un statu quo. Qu'on tourne en rond dans un désert, ou même qu'on peut rétrograder des affaires qui n'étaient plus là dans notre vie, puis ça revient. On recule, on est en train de retourner comme qu'on était auparavant. Avez-vous l'impression que vous n'êtes pas rentré dans l'appel de Dieu pour votre vie? Dieu, il nous a placé en chacun de nous un appel, puis il nous appelle. Il nous a appelés à être sauvés, ça c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais là, on commence notre vie chrétienne quand on est sauvé. C'était pas le but à atteindre, c'était le commencement de la nouvelle vie. Après ça, faut que tu vives avec le Seigneur, puis le Seigneur t'appelle dans des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Mais si tu le sens pas que tu es dedans, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut que tu y ailles chercher cette information-là. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis prête. Faut être volontaire. Puis on lève notre main. Puis là, quand on voue de l'ouvrage, puis que c'est à notre force, on s'implique. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'il n'y aura pas de pensée ni œuvre à faire dans le séjour des morts après. C'est pendant qu'on est sur la terre des vivants qu'on peut œuvrer pour le Seigneur. Profitons du moment de notre vie pour vivre le plus possible à être au service du Seigneur. Avez-vous l'impression que vous n'êtes pas arrivé au niveau de sanctification à l'image du Christ, consacré à Dieu à 100%? C'est des bonnes questions. Puis il faut s'arrêter pour y réfléchir. Parce que si on n'y pense jamais, on peut courir notre vie à droite pas à gauche, d'un magasin à l'autre, d'un jeu à l'autre, d'un plaisir, d'un loisir à l'autre, pour des informations qui sont les choses du monde, puis pas être dans la bonne place, en train de faire ce que Dieu s'attendait de nous. Dieu, il a un plan précis pour notre croissance, notre développement, puis notre formation, pour qu'on soit équipés des hommes de Dieu solides, inébranlables. On ne branle plus dans le manche, on marche avec le Seigneur, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On ne frappe pas à l'aveuglette, là. On sait où est-ce qu'on s'en va. On connaît les ruses du diable, puis on marche par la foi, puis on remporte des victoires. Tiens, amen à cela. Savez-vous que toutes les solutions sont dans le même mode d'emploi? Pour tout le monde, tous les chrétiens qui ont vécu sur cette terre, ils sont dans une de ces situations-là, là, qui n'ont pas atteint telle chose, mais il y a une seule solution pour tous les problèmes. Puis elle se retrouve dans le mode d'emploi. La réponse est dans la Bible. Dieu nous a déjà enseigné, révélé, équipé, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le but, c'est qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu inébranlables. Qu'on ne se laisse plus aller à tout vent de doctrine, puis tromper, mélanger, entraîner, égarer, perdu. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on a à faire, puis on avance. Toutes nos réponses sont dans la Bible. Si on n'a pas atteint certains niveaux, le Seigneur va nous donner comme aujourd'hui, c'est juste un survol, là, mais d'une manière que si on marche dans cette idée-là, on va réussir. On va se rendre où ce que on a des lacunes, où ce qu'il y a des manques dans notre vie. Dieu va combler. Dieu va remplir tous les trous, puis l'asphalte, elle va être bien belle. Mais ça, c'est nous qui doit aller à Dieu puis laisser faire Dieu dans notre vie, parce que Dieu veut le faire. Dieu a des projets pour chacun de nous, puis il faut rentrer dans son projet à lui. Je peux en avoir plein de projets, mais c'est pas les seuls que Dieu a préparés, mes trous se rempliront pas. Je vais être encore pareil à la fin de l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Je vais être encore pareil, je vais tourner en rond. Pour y arriver, quand la nuit se lève, tout le monde plie bagage pour se annuer. On ne reste pas installé. Pareil comme le peuple d'Israël, il était dans le désert. Puis si la nuit se levait, c'est que Dieu se manifestait par comme un nuage dans le jour. Puis la nuit, c'était une flamme de feu. S'il se levait, tout le peuple ramassait sa tente et ses affaires, puis on suit. Puis là, il se laissait diriger dans la direction où Dieu les amenait. Mais Dieu veut nous amener dans des verts pâturages. Il veut nous amener dans nos guérisons, dans nos délivrances, dans notre formation, dans nos victoires. On a des choses en suspens. Il veut qu'on saisisse l'opportunité de le laisser faire. parce que Dieu veut le faire. Il nous invite à le laisser faire. Puis c'est là qu'il va se produire des choses grandioses. Si on met Dieu au centre de notre vie. Amen. Pour faire le point, il faut se rappeler de la mission de tous les chrétiens. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde, beaucoup de choses qui sont là, qu'on pourrait s'occuper du matin au soir, sans penser aux vraies choses que Dieu, lui, y a établies. Puis notre mission, on va regarder un passage dans Luc 19, les versets 12 à 16. Jésus l'a expliqué sous forme d'une parabole, mais il y avait un message dans cela. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ça, c'est Jésus, qui est ce personnage-là qui devait venir du ciel, venir sur la terre pour venir accomplir quelque chose qui lui donnerait l'autorité royale. Mais il est supposé de revenir. Puis là, en attendant qu'il soit parti, il appela ses 10 de ses serviteurs, puis il leur donna 10 mines. Et, puis là, des mines, c'était une valeur monétaire. Il leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Chacun, il était 10, puis les 10 en avaient reçu une mine, puis ils devaient travailler avec cette mine-là, cette valeur monétaire-là, puis ils devaient la faire fructifier. Puis là, ça nous dit que dans l'histoire, parce qu'il y avait plus qu'une idée dans cette histoire-là, il dit que les concitoyens le haïssaient, puis ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Mais lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Tous ces serviteurs-là avaient une vie. Ils vivaient leur vie. Mais ils ont fait probablement le choix d'être au service de quelqu'un qui était pour être couronné roi. Puis pour nous, ça représente Jésus. Puis vous faites toute partie des serviteurs qui se sont enrôlés pour être au service du futur roi de cette planète. Il manquait un petit quelque chose. Jésus va être couronné roi, puis il va régner sur toute la terre. Il va le prendre, le contrôle. Puis c'est lui qui va être le boss ici, quand ça va être son temps. En attendant, il nous a remis à chacun de ses serviteurs une mine, une portion, la même affaire, on a toute la même affaire. Ça nous a été remis, puis ça c'est une valeur monétaire dans l'histoire, mais on le prend, mettons, on va le prendre comme valeur monétaire. Puis il s'attend que chacun de nous, on fasse fructifier cette valeur-là. Il veut pas que ça reste au même niveau. Quand ils reviennent, soit qu'il en manque ou en plus, tu l'as perdu ta mine. Mais là, il veut la ravoir, puis en plus avec de l'intérêt. Il veut que tu la fasses valoir. Puis si tu regardes un peu l'histoire, il va parler à un, il va dire, tu aurais pu mettre ça à la banque, ça a ramené de l'intérêt. L'idée, c'est que on a, chacun de nous, on a entre nos mains, quand on a reçu le Seigneur, on a tous reçu quelque chose qui venait de Dieu, que Dieu nous demande de faire valoir pour notre temps terrestre. Combien de temps qu'il nous reste, on ne sait pas, mais une chose est sûre, Jésus va revenir, puis on va avoir à comparaître chacun de nous devant Jésus, pour Dieu. Puis il va regarder ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a confié. Il nous dit, faites-les valoir. C'est ça qui est le but au verset 13. Le mot valoir, c'est qui est écrit là, en ce verset-là, c'est être occupé à quelque chose, continuer une affaire, ou exercer une activité de banquier ou de commerçant. Faites fructifier, comme si vous seriez un commerçant, puis que vous soumettiez à faire des affaires, autrement dit, faire de l'action avec ce que vous avez dans les mains, pour que ça rapporte. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'ils ont reçu quelque chose puis qu'ils savent qu'ils mettent au service du Seigneur leurs dons, leurs capacités. Gênez-vous pas. C'est pas un jugement. C'est pas moi qui est Jésus. On est en train de faire le point sur notre vie. Il faut y penser. Je suis dans l'action. Je suis en train de faire fructifier ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Mais là, on veut le... Première chose qu'on peut savoir, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. C'est tout ça. Oui, parce qu'on a vu tantôt des victoires, d'être rempli de son feu, d'être en progrès, être dans l'appel de Dieu, se sanctifier. Marcher en contact avec Dieu nous procure de l'avancement dans tout. C'est ça qui est le point qu'on veut regarder. Sommes-nous, avons-nous mis Dieu au centre de notre vie? Parce que c'est la seule façon qu'on peut grandir, qu'on peut faire quelque chose qui va être fructifiant. C'est assez compliqué. Première chose qu'on va faire, on va décrocher de cette idée-là, on va s'arrêter pour considérer comment est-ce que Dieu il était avec nous dans l'année 2016 et 2015 et les années antérieures. Il faut réaliser que pour moi, je le remarque, mais là, si je vous donne je vous donne la chance d'y penser, vos meilleurs moments que vous avez eus n'est-ce pas quand vous étiez connecté, rempli du Saint-Esprit, béni par le Seigneur, par quelque chose. Les meilleurs moments d'une vie d'une personne, c'est lorsque Dieu est intervenu dans quelque chose, puis vous a fait vivre quelque chose. T'as beau que quelqu'un te donne quelque chose, oui, ça peut donner une petite satisfaction, mais pour moi, mes meilleurs moments, c'est quand je suis connecté avec le Seigneur, puis je loue le Seigneur, puis je suis béni. Quand je suis avec mes frères et sœurs, c'est la même affaire, quand il n'y a pas de chicane, là. Mais quand on est ensemble, puis qu'on a une bonne communion fraternelle, la joie du Seigneur est là, tu sors de là béni. Puis si on s'arrête, dans notre année, Dieu nous a bénis de toutes sortes de façons, aussi exaucé de nos prières. Il a pourvu à des choses, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui grandissent, comme il y a plus de membres dans l'Église, il y a plus de personnes, mais c'est une bénédiction. Mais je te dis pas que c'est juste, que faut absolument que tu aies des nouvelles personnes pour te sentir béni, mais faut que tu sois capable de voir une bénédiction quand il y en a une, puis il faut que tu la vois pour pouvoir dire, ben merci Seigneur pour cette bénédiction-là. Si je vois pas Dieu dans ma vie, dans rien, comment je vais faire pour savoir qu'il m'a béni? Puis comment je vais faire pour lui dire merci? Puis il faut en arriver à dire merci au Seigneur, à reconnaître ses bienfaits pour être capable de dire merci. Puis c'est ça qui est le but. Là. On veut apprendre à découvrir Dieu est-il avec moi? Si j'avance pas dans ma vie, puis là je suis plein de doutes. Dieu est-il réellement avec moi? J'avance plus. Dieu veut que tu saches qu'il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis si tu n'avances plus, c'est pas parce qu'il a fait défaut. C'est pas à lui la faute, c'est à nous la faute. On a perdu de vue quelque chose. Parce que si on réalise qu'il est là avec nous, ben on va commencer à voir sa main. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Tu veux-tu que ta vie soit aplanie par Dieu? Mais faut que tu le reconnaisses. Que tu commences à dire, merci Seigneur pour telle affaire, merci pour ce que tu as fait, ben merci pour le 2016, pour les exaucements de prière, les choses que tu as faites, que j'ai eu des moments de bonheur, puis notre vie change, est transformée, on voit des choses, puis ça nous réjouit, des choses qui viennent de Dieu. Je pense que le meilleur départ pour avancer, c'est de remercier le Seigneur pour ses bienfaits et pour sa fidélité. Quand tu vas commencer à être reconnaissant pour ce qu'il t'a fait, tu vas le voir encore plus dans la suite. Puis il faut que tu commences à quelque part à dire merci. Quelqu'un qui pense que tout lui est dû, là, mais il a pas de reconnaissance, c'est un ingrat, puis en plus de ça, il en vient tellement habitué qu'il a pensé qu'on y doit tout, qu'il remarque même plus tout ce que le monde font comme gentillesse. Puis il passe, lui-là, puis il profite de tout le monde, puis Dieu ne nous appelle pas à être comme ça. Il veut qu'on réalise qu'il est avec nous, puis il veut qu'on apprenne à lui dire merci. Puis quand on va commencer à faire cela, comme le chant disait, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais si tu t'arrêtes pas pour y penser, tu vas t'es oublies, soit tu penses que c'est un dû, puis tu remercies pas, puis tu le verras pas non plus d'ensuite à toutes les fois qu'il va te bénir. Puis après ça, c'est comme si tu marches tout seul dans ta vie chrétienne, dans tes capacités. Tu marches plus avec l'impression que Dieu est avec toi, puis Dieu t'a ouvert une porte, puis Dieu t'a béni ici, Dieu a fait ça, puis là Dieu a répondu, puis Dieu, tu vois la main de Dieu, puis dis merci au Seigneur. Dans Éphésiens 5, 20, ça dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendre grâce pour tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Si vous avez un toit sur la tête, c'est Dieu. Si vous avez un automobile, c'est Dieu. Si vous avez un travail, c'est Dieu. Vous avez la santé, c'est Dieu. Vous avez une épouse, un époux, c'est Dieu. Vous avez des enfants, c'est Dieu. Vous avez tout ce qu'on a, faut pas s'arrêter sur ce qu'on n'a pas. Le bonheur, c'est pas de posséder tout ce qu'on désire, mais de se sentir satisfait, d'être heureux de ce qu'on a. Puis si Dieu a déjà pourvu, on a le ventre plein, on a un lieu pour qu'on peut l'adorer, on peut le servir, on a toutes les raisons d'être plein de gratitude. Dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Merci Seigneur, c'est de lui que sont toutes choses. Merci Seigneur, à lui soit la gloire. Gloire à ton nom, merci Seigneur, puis merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu feras, merci pour tout ce que tu as pourvu, merci d'être avec nous, merci de ton salut, merci de la vie éternelle, merci, 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 merci. On pourra passer la journée à être reconnaissant. Toutes les réponses à tous nos problèmes et toute vraie réussite dans notre vie viennent de Dieu. Si vous voulez être dans la victoire, c'est Dieu qui va vous la donner, la victoire. C'est pas parce que vous avez été capable. Parce que même si tu atteindras la victoire par toi-même, c'est pas une victoire. Si Dieu n'était pas là, c'était pas une réussite. Regardez bien ce psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, mais ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, mais celui qui la garde veille en vain. Ça veut dire, si Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu construis, tout ce que tu es en train de faire, ça sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps. Tu as peut-être construit de quoi, mais Dieu n'était pas là, ça sert à rien. Dieu veut que tu apprennes que les choses qui vont être méritoires devant lui, c'est les choses que tu as faites en Dieu, les choses que tu as faites pour Dieu, par Dieu, puis que Dieu est au centre. C'est ça qui va amener une croissance dans ta vie. C'est pas qu'est-ce que tu fais par toi-même. Ça sert à rien. Comme qu'il nous dit dans la parabole du gars qui avait bâti un grenier, là, puis là, il dit, j'ai eu des grosses récoltes, je vais détruire mes récoltes, je vais en bâtir encore un plus gros grenier, je vais ramasser tout ce que j'ai eu comme récolte, puis là, repose-toi, mon âme, réjouis-toi, on a des réserves pour longtemps, puis Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme va te redemander ce que tu as ramassé, à qui ça va servir? Puis il dit la conclusion, verset 21, dans Luc 12, 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Tu peux avoir un gros compte de banque puis être extrêmement pauvre devant Dieu parce que tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour toi-même. Puis ça sert à rien, tu n'emmèneras rien là, au bord de ce qui est là. C'est ce que tu as fait avec Dieu, par Dieu et pour Dieu qui demeure éternellement. Pour ceux qui n'ont pas encore mis leur vie dans les mains du Seigneur, ben apprenez que lorsqu'on devient chrétien, c'est pour apprendre à faire confiance à Jésus, notre Seigneur, puis à le mettre au centre de notre vie. Tu deviens chrétien pour suivre le Christ. Pas pour lui dire, « Tosse-toi, attends-moi, là, j'ai plein d'affaires à faire. Attends-moi, j'ai encore plein d'affaires. Faut que j'y aille faire ça, là. » Mais c'est ça qu'il y en a qui ont dit, « Faut que j'y aille enterrer mon père. » Un autre, il dit, « J'ai acheté des bœufs, faut que j'y aille m'en occuper. » Non, si tu veux suivre Jésus, là, tu veux aller où ce que Jésus est, laisse tout là. Occupe-toi de ce que Jésus va te dire. Laisse entrer Jésus comme dans le centre de ta vie, puis rentre dans les œuvres que lui a décidées pour ta vie. Ça va être beaucoup plus profitable pour ta vie éternelle. Puis il faut pas apprendre à mettre notre confiance dans notre capacité. On peut faire beaucoup de choses, ceux qui sont bourrés de talent, sont capables de faire beaucoup de choses, mais il faut t'apprendre à dire... T'es pas capable, puis t'as besoin de l'aide du Seigneur, puis c'est là que le Seigneur va t'aider, même si t'as la capacité. Puis parce qu'il va arriver des moments, tu vas avoir des blocages, tu vas être arrêté, puis tu vas reconnaître encore plus qu'il est avec toi quand les réponses viennent, puis tu vas avoir appris à dire merci Seigneur, parce que même les révélations, l'intelligence, les petits déclics, les petites lumières, les capacités qui s'augmentent, mais c'est Dieu qui donne les capacités. Apprenons à mettre Jésus au centre, puis à pas se fier à nos capacités, puis à vivre avec Jésus. Que Jésus va nous aider, Jésus va nous ouvrir les portes, Jésus va nous faciliter les choses. Dans Philippiens 3:3, l'apôtre Paul, il dit, « Les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à notre Dieu par l'Esprit de Dieu. Nous nous glorifions en Jésus. Et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. On glorifie Jésus. » On met pas notre confiance dans notre chair. Oui, on a des capacités. Mais même si t'en aies pas, apprends à mettre Jésus au centre, puis à vivre pour Jésus, puis à faire de Jésus ta gloire. Parle de Jésus. Mande-y de l'aide dans ce que t'as à faire. Même si tu penses que t'es capable, apprends à mettre Jésus au centre de ta vie. Puis c'est là que Dieu va agir. Si tu te confies dans tes forces, tu as tassé Jésus, puis tu dis, je suis capable tout seul. Mais il dit, ceux qui bâtissent, si Dieu n'est pas là, tu bâtis pour rien. Ça ne sert à rien. Il faut que tu apprennes à dire, c'est grâce à Jésus, puis par l'aide de Jésus, il m'a ouvert les portes, puis il m'a béni, puis là, tu rends gloire à Dieu. Là, tu es utile à la gloire de Dieu. Réalisons que nous ne sommes pas arrivés à terme dans notre transformation. Moi, je l'avoue. Êtes-vous prêts à avouer que vous n'êtes pas rendus à terme dans votre transformation? On a tout encore des choses, des changements, des décisions à faire pour que ça change. Puis nous-mêmes, on l'a réalisé, j'espère que vous avez réalisé que vous n'êtes pas capable de tout changer par vous-même. Vous avez besoin, nous-mêmes, moi-même, j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour être transformé. Puis j'ai encore des choses à être transformées. Il nous reste des choses à changer, et même, des fois, ça peut être non seulement qu'on n'a pas atteint notre niveau, mais on a eu un ralentissement dans notre course. Ça peut arriver qu'on a des ralentissements dans notre course, ou même peut-être qu'on s'est refroidi. Un chrétien, ça peut arriver que ça se refroidit. Il faut pas se cacher là derrière un masque. Rentrer à l'église avec un gros sourire, mais en réalité, on est tous démolis en dedans. Oui, on peut avoir cette attitude-là, mais c'est pas ça qu'il faut avoir. Il faut s'avouer comme qu'on est, puis on demande de l'aide au Seigneur pour s'en sortir. Nier nos problèmes ne règle pas nos problèmes. On a tous des problèmes. Si tu nies, il y en a qui disent, ouais, si t'en parles pas, il y en a qui... Ils ramènent toujours le problème, ça c'est une autre affaire, mais on n'est pas obligé de faire exprès pour entretenir des problèmes. Ça, je suis d'accord, mais on peut demander de l'aide au Seigneur, puis on peut les prier le Seigneur, mettre Jésus au centre de notre vie, lui demander qu'il nous donne les victoires et confesser que nos victoires s'en viennent. Mais il nous demande de faire quelque chose avec nos problèmes. En Apocalypse 2:5, ça nous dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Comme je vous disais, nier un problème, ça ne règle pas le problème. Dieu nous dit le contraire. Il nous dit, « Souviens-toi de où tu es tombé. » Ça ne donne rien de nier. Rappelle-toi-en où ce qui est ton problème. Médite à ton problème. Il dit, « Souviens-toi de ton problème, où tu es tombé. Repens-toi. » Se repentir, là, dans le mot grec qu'il y a là, c'est changer son esprit, se repentir ou changer d'avis ou regretter. C'est tous des sens. Changer son esprit pour mieux, ou ça veut dire ou s'amender de bon cœur à une aversion extrême pour ses péchés passés. Ça veut dire, tu commences, tu constates ton état, tu te rappelles d'où ce que t'es tombé, puis là tu commences à haïr ce fait-là que t'es tombé, puis là tu veux changer. Tu décides de changer. Avec l'aide du Seigneur. C'est ça la vraie repentance devant Dieu. Il dit, souviens-toi où tu es tombé, repens-toi. Prends conscience, dis non. Résiste, haïs ça où tu es tombé. Si tu aimes ton péché et tu veux rester dedans, tu as un problème, il va rester là. Faut que tu fasses tu prennes une résolution de changer. Pas tu seul, avec l'aide du Seigneur. Parce que faut que tu reconnaisses que si tu penses que tu es capable de t'en sortir, mais comment se fait que tu t'en es pas sorti, tu es encore dedans? Mais en réalité, tu n'es pas capable. Faut que tu l'avoues que tu es impuissant. C'est comme les alcooliques anonymes. Ils avouent leurs impuissances pour pouvoir demander l'aide. Bon, mais ça, c'est l'idée. Nous aussi, il faut avouer, on nie pas le problème, on avoue notre impuissance, puis on demande l'aide au Seigneur pour s'en sortir. C'est là qu'on met Dieu au centre de notre vie. On commence à lui dire de venir faire le travail, qu'on est prêt à se soumettre à ce qui s'attend de nous. Rappelons-nous ce qui est écrit dans la parole, puis prenons des résolutions par la foi avec le Seigneur. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu vas être de la misère à vouloir ajuster ta vie face à la parole. Mais il est important qu'on apprenne. En lisant, en écoutant les messages, t'apprends, là tu commences à saisir c'est quoi la vie d'un chrétien. Puis s'il y a des affaires dans ta vie qui sont pas conformes, si tu es un voleur, mettons, puis tu t'aperçois que Dieu veut pas qu'on soit un voleur, mais là, faut que tu travailles là-dessus. Faut pas que tu dises je le nie, puis je l'oublie, puis je fais semblant que ça c'est pas là, parce que tu vas être encore un voleur dans un an. Si tu veux que Dieu te change, faut que tu réalises, puis tu demandes pardon, puis tu lui demandes de venir faire le travail, tu le confesses de ton problème, puis tu lui dis que tu as besoin de son aide, puis c'est là qu'il va te délivrer. Dieu, il est fidèle. Dans Apocalypse 3:3, ça nous dit, « Rappelle-toi donc comment t'as reçu et entendu, garde et repens-toi. » Rappelle-toi comment t'as reçu. La parole de Dieu qu'on a reçue, là, ça nous a amené à accepter Jésus. On voulait tout changer quand on a donné notre vie au Seigneur. Mais des fois, avec le temps, on se refroidit, puis là, on se laisse aller, puis on accepte les affaires. Mais quand tu acceptes Jésus sincèrement, puis tu es en feu pour le Seigneur, tu veux que ta vie change. Mais rappelle-toi comment ça t'a changé, puis comment c'est devenu au Seigneur. Puis là, cherche à revenir dans le même intérêt, dans le même zèle, dans le même feu, mais repens-toi pour y arriver. Puis on voit dans cela que c'est pas juste Dieu qui va faire le travail. Faut que toi, tu décides de prendre une résolution de vouloir changer. Mais on commence une nouvelle année, comme je disais, mais c'est un bon moment de faire le point puis de remettre Jésus au centre de notre vie. Se repentir, c'est de revenir de tout notre cœur au Seigneur. Quand on n'est plus de tout notre cœur au Seigneur, on a besoin de se repentir. Si on a des parties de notre cœur qui est dans le péché, puis qu'on aime des affaires que Dieu aime pas, mais notre vie chrétienne est comme sans puissance, fade, comme un sel sans saveur, comme une lumière sans éclairer, une lumière éteinte, une lumière sans électricité. Deutéronome 10:12, ça dit, écoutez bien, c'était dans la loi de l'Ancien Testament. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Aimer et servir le Seigneur, c'est à ça qui est à l'essence de la loi aussi. Puis ça a été répété dans le nouveau, cette idée-là, dans Luc 10:27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est animé d'un amour, ton cœur est tout entier à Dieu. C'est ça que Dieu... On peut dire, j'aime Dieu, mais on le laisse à la tablette. On le laisse à la tablette avec notre Bible. Notre Bible est là, puis Dieu est là. Puis on vit notre vie pour nous. Non, c'est pas de même que ça marche. Il faut faire abstraction de ce qu'on aime, puis ce qu'on recherche. Puis même, il dit, entre les désirs de la chair puis les désirs de l'esprit, c'est complètement à l'opposé, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut apprendre à renoncer à ce qu'on veut, puis dire, là, je veux centrer ma volonté sur celle de Dieu. Seigneur, rentre dans ma vie, puis amène-moi dans mes victoires, dans ma guérison, dans tout ce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Puis on n'en aura pas été capable, si on n'a pas mis Dieu, il n'y a pas de victoire possible, réelle. Même si tu aurais eu des étapes que tu as franchies, n'ont aucune valeur si Dieu n'était pas là. Ceux qui bâtissent leur maison sans Dieu, ils bâtissent en vain. Donne ta vie au Seigneur, fais-lui confiance, il va agir dans ta vie. Dans le psaume 37:5, ça nous dit ça. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu mets en lui ta confiance, faites-vous confiance au Seigneur. Mais une confiance, t'as une ferme assurance qui est avec toi, puis là, tu lui dis, Seigneur, je crois que tu vas régler cette affaire-là. Tu le mets au centre de ton problème, puis je te le donne, ce problème-là, c'est plus mon problème, c'est le tien. Arrange-toi avec. Jésus nous tend les mains avec la même patience qu'il a eue pour le peuple d'Israël. Il a dit dans Luc 13:34, il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, puis vous ne l'avez pas voulu. » Mais Dieu, il a la même patience, puis il a encore même plus de patience pour ceux qui sont de la Nouvelle Alliance. Il veut nous rassembler. Il veut nous protéger de ses ailes, comme une poule qui veut protéger ses poussins. Faut lui dire oui, faut le laisser faire, faut lui laisser la place, faut l'inviter. Oui, Seigneur, je veux être protégé. Dieu voulait le faire au peuple d'Israël, puis il dit, le peuple d'Israël l'ont pas voulu. Dieu voulait leur offrir sa sécurité, sa protection, puis Israël l'a pas voulu. Faut pas imiter ces gens-là. Ça, c'est un exemple à ne pas faire. Faut dire, oui, Seigneur, on veut ta protection, on veut que tu nous sécurises, on veut que tu nous couvres comme une poule, puis la poule, je suis qu'elle pourvoit aussi à ce qu'ils ont besoin à manger, à ses enfants, à ses poussins. Ben, soyons dans cette, oui, Seigneur, prends ma vie, je la donne, conduis-moi, je te fais confiance, tu es ma sécurité, tu es ma force. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure au début dans le psaume. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Fait que sa force, c'était Dieu qui y donnait. Puis sa protection, c'était Dieu qui le protégeait. En lui, mon cœur se confie. Il avait mis sa confiance en Dieu et je suis secouru. Puis là, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et là, je le loue par mes chants. Voyez-vous, l'évolution, ça commence par s'attendre à ce que Dieu fasse. Puis après ça, quand vous allez voir ce que Dieu va faire, vous allez avoir de l'allégresse dans votre cœur, puis vous allez vouloir louer le Seigneur pour ce qu'il est, puis pour ce qu'il fait. Le nouvel an, c'est une occasion d'un nouveau départ, à remettre notre âme au fidèle Créateur. Profitons de cette nouvelle année qui commence. Faisons le point. Rappelons-nous ce que Dieu a fait. Là, on s'en aperçoit. On est reconnaissant. Disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour toutes ses bontés, son amour, sa patience, son salut, son Saint-Esprit, son secours, ses exaucements de prière. Mettons Dieu comme, ouais, il était vraiment là. Puis là, plus que vous allez réaliser qu'il est là, puis plus que vous allez le confesser qu'il est là, plus ça va devenir réel pour vous, puis vous allez pouvoir mettre en lui votre confiance pour la suite. 2017, les victoires, la croissance, la réponse à l'appel. On va rentrer dans nos appels. Dieu va faire encore des appels à des gens pour qu'ils soient sauvés, bien entendu, mais d'autres pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Puis Dieu va vous équiper, Dieu va vous faire grandir. Mais mettez Dieu au centre. Seigneur, on te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous. On reconnaît. On voit ta main, Seigneur, comment tu as agi depuis le début dans notre vie chrétienne. Notre vie a eu des hauts et des bas, on a eu des victoires, on a eu des défaites, mais tu es là, tu es fidèle, tu nous aimes, tu veux nous apprendre le combat, tu veux nous équiper, tu veux nous remplir de ton Saint-Esprit, tu veux nous rendre victorieux, tu veux nous donner ton armure, qu'on soit des soldats, mais Seigneur, pour 2017, équipe ton peuple, fortifie tes enfants, on te fait confiance, on te remet nos vies entre tes mains et conduis-nous par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen.